France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Marc Lévy.
Elsa Boublil.
Les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l'avenir.
Pierre Dac.
Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York.
Your vagabond shoes, they are longing to stray
and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep
and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away.
Gonna make a brand new start of it in old New York.
You always make it there. You make it anywhere.
It's up to you, New York, New York. City that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list.
You bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little
a brand new start of it right there in old New York.
You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere.
Come on, come through.
C'est sur cette chanson, d'abord interprétée par Liza Minnelli dans le film de Martin Scorsese, sorti en 77, New York, New York, et ici reprise par Frank Sinatra et Tony Bennett, que nous vous accueillons, Marc Lévy, au Palais du Festival de Cannes. Contexte idéal pour vous et nous faire entendre cette chanson de la ville que vous avez choisie pour vivre. Vous, l'écrivain français le plus lu dans le monde, 20 romans traduits en 49 langues et publiés à plus de 45 millions d'exemplaires. Votre dernier roman chez Robert Laffont, Ghost in Love, est idéal pour nous ce matin puisqu'il s'agit de l'histoire de Thomas, pianiste virtuose qui part 3 jours à San Francisco pour vivre une histoire surréaliste et fantomatique avec son père défunt qui lui revient pour rattraper le temps perdu auprès de ses amours. C'est un roman onirique et absolument délicieux qui se dévore en très peu de temps dès qu'on l'a dans les mains. Bonjour Marc Lévy.
Bonjour et merci beaucoup.
Bienvenue, c'est une joie de vous rencontrer ici, effectivement, où la place de l'onirique est totale, hein, dans le cinéma, au Festival de Cannes, également dans votre roman, New York, New York, pour vous accueillir, ça vous...
C'est parfait, j'avais l'impression d'être à la maison.
C'est vrai.
C'est une chanson qui est très emblématique de la ville, mais en même temps, finalement, cette chanson a ce... petit côté un peu miraculeux de contenir une énergie qui ressemble beaucoup à celle de la ville. Cette façon, même dans Frank Sinatra la chante, c'est vraiment comme un hymne. Ça vous rappelle à l'identité de ce qu'est New York et de ce que reste de New York, quels que soient ses excès, son évolution, la façon dont elle a pu changer ces 30 dernières années, mais ça reste ça, exactement ce que cette chanson raconte.
Alors, c'est bien que vous arriviez à nous parler de cette chanson dans ce contexte citadin, puisque on va être ensemble pendant une heure et demie et que on va vous découvrir à travers vos goûts musicaux. C'est d'autant plus fort que ce personnage, donc Thomas, dont je parlais à l'instant, est pianiste. On sent que la musique est là depuis toujours quand on vous lit.
Ah oui, ça a commencé très tôt. D'abord, on écoutait beaucoup de musique chez mes parents, mais moi, j'étais fou de musique classique très jeune, ce qui n'était pas tout à fait normal pour un enfant, mais et surtout, c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance. J'entendais tout le temps des concerts de musique classique dans ma tête.
On va pouvoir en parler, puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi jusqu'à midi et demi. Un mot sur la phrase de Pierre Dac?
Moi, c'est tout l'humour que j'aime, c'est-à-dire cet humour décalé, cet humour en fait, cet humour qui dit des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, c'est l'humour absurde. C'est la quintessence même de l'humour. Il n'y a jamais une once de vulgarité et en même temps, on n'a pas peur de la grossièreté, parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Et puis surtout, cette phrase est hilarante.
Les prévisions sont difficiles à faire, surtout en ce qui concerne l'avenir. Oui. C'est tout à fait le sujet de Ghost in Love aussi.
Mais exactement.
Thank you.
Katia Bouniatichvili interprète cet impromptu pour piano en la bémol majeur, opus 90 numéro 4 de Franz Schubert. Vous l'avez immédiatement reconnu, Marc Lévy, dès les premières notes. Vous m'avez dit, c'est le quatrième, bien sûr. Parce que vous aviez proposé un impromptu parmi d'autres. C'était oui. pas, c'était pas précisément choisi. Et donc, vous les connaissez très, très bien.
Oui, oui. Enfin, en même temps, je les ai beaucoup écoutés. Et puis, celui-là, je l'ai joué.
Vous l'avez joué, dans, vous avez été pianiste?
Dans une ancienne vie, oui.
Enfant, vous avez appris le piano?
Oui, absolument.
C'était...
Et ça, celui-là, c'était... En fait, c'était mon petit Himalaya.
Vous voyez, c'était vraiment l'infranchissable?
Oui, c'était... c'était pratiquement... comment vous dire? C'était le morceau de musique où en l'entendant enfant, je m'étais dit... voilà, c'est vrai, mon rêve de vie serait de jouer ce morceau un jour. En fait, quand j'étais, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais quand j'étais enfant, comment vous dire, c'était un défaut de fabrication, mais j'arrivais pas à dissocier mes mains.
Et c'est-à-dire la droite de la gauche.
Ouais. J'étais en fait, vous savez, on parle d'ambidextre, on parle de droitier, de gaucher. Moi, c'était un autre truc, c'est que mes deux mains faisaient presque tout en même temps. Je pouvais pas les dissocier. Et comme à l'époque, compte tenu de mon très jeune âge, on apprenait encore à écrire à la plume sergent-major, j'ai fait partie des derniers à subir cette torture. Et donc moi, j'étais obligé de tenir le porte-plume à deux mains. Donc autant vous dire que les pâtés sur la feuille valaient un paquet de coups de règle. Et donc j'étais très maladroit et on se moquait beaucoup de moi à l'école. Mais j'étais encore trop jeune pour me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas bien avec mes mains. Et puis un jour, je suis dans la chambre de ma grand-mère et je vois à la télévision Zifra jouer une mazurka de Chopin. Et Zifra, c'était un immense pianiste, mais qui avait vraiment des mains de boucher. Pardon pour les bouchers, hein, y a des bouchers qui ont des très jolies mains, mais c'est une expression. Hein. C'est un pianiste qui avait des mains quand même très très massives, hein, et c'est une découverte qui me fascine parce que je vois l'agilité des doigts, oui, enfin son paroxysme. Et c'est un, comment dire, c'est un choc. Je me dis, mais c'est incroyable qu'on puisse faire ça avec ses mains. Enfin, vous voyez, c'est comment vous dire, c'est imaginez un gosse qui a du mal à marcher et qui voit une danseuse étoile. Et donc, je dis à mes parents que je veux jouer du piano. Ce qui pour eux était un cauchemar absolu.
Tu vois. Vu votre difficulté avec
ben
vos
oui,
mains.
Ils se sont dit, non, pas ça, pas ça. Vous voyez, où c'est enfin, quelqu'un qui a un enfant qui est bègue et qui dit, je vais être acteur. Ouais. Vous voyez, donc ils se disent, oh là là, non. Voilà.
Et vous avez réussi? Ça vous a aidé à différencier vos mains?
C'est ce qui, oui, c'est ce qui a détaché mes deux mains. Thank you.
L'étude numéro 1 en ut majeur opus 10 de Frédéric Chopin, interprétée par Genucias Lucas. Marc Lévy, vous commentiez le piano que vous avez pu jouer, parce que j'étais un peu impressionnée que vous ayez pu jouer le quatrième impromptu de Schubert. Et en fait, vous avez donc appris le piano, ça vous a permis de différencier vos mains, mais vous avez réussi à aller loin quand même. Vous avez étudié longtemps le piano?
Oui, non, mais j'ai étudié un paquet d'années, après j'ai arrêté. Mais oui, j'ai étudié pendant une bonne vingtaine d'années, oui.
Et cette étude, chute d'eau, vous avez commencé à la...
Non, l'étude qu'on vient d'entendre, ouais. Non, l'impromptu, j'y suis arrivé. Les études de Chopin, ça faisait partie de l'apprentissage. C'était, comment vous dire... moi, ces études m'ont toujours beaucoup touché. Et en fait, elles sont... je les trouve... encore plus imprégnante quand on les joue soi-même. Et je vous le dis tout de suite, je serais absolument incapable aujourd'hui, même d'en rejouer les premières mesures, parce que le piano, ça se perd, évidemment.
Vous avez complètement arrêté ?
Le piano, ça a été mon meilleur ami d'enfance. Et d'ailleurs, il y a une démarche très proche. Je l'ai trompé avec l'écriture ensuite. Je l'ai toujours gardé. Et j'ai voyagé à travers le monde. J'ai toujours emmené mon piano avec moi. Mais je serais incapable aujourd'hui de rejouer comme j'ai pu jouer quand j'avais 20 ou 25 ans. Oui.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Alors, Marc Lévy, vous disiez avoir entendu des musiques dans votre tête quand vous étiez enfant. Et Thomas aussi, il entend dans sa tête des impromptus, d'ailleurs, comme s'il était dans une salle de concert. Et ça, depuis l'enfance. Comment vous pouvez nous raconter comment ça se passait? Vous entendiez clairement les notes?
Oui. C'était, j'entendais l'orchestre entier.
Oui, il n'y a pas besoin de disque, du coup.
Non, mais vraiment, je me couchais, je fermais les yeux et j'étais dans une salle de concert et j'entendais... D'ailleurs, j'étais convaincu quand j'étais enfant, j'étais c'est pathétique, mais j'étais convaincu que je serais compositeur. Je vous dis, j'étais toute la journée, j'entendais des musiques dans la tête, c'était omniprésent.
Ouais.
Mais omniprésent et qui étaient d'ailleurs des probablement des musiques composites de tous les concertos ou symphoniques que je pouvais écouter et qui se remélangeaient dans ma tête la nuit. Mais c'était très présent. Je me souviens, quand j'étais enfant, d'avoir été réveillé au milieu de la nuit parce que j'entendais ces concertos dans ma tête pendant la nuit. Mais c'était magnifique, c'était magique.
Thomas, c'est le personnage principal de Ghost in Love, votre dernier roman, Marc Lévy. Et donc, c'est un concertiste. C'est parce que vous avez... un regret de ne pas être devenu pianiste?
Non, c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose de très similaire, je pense, entre l'interprétation, la composition et l'écriture, qui est finalement d'exprimer autrement que par des mots directs les choses qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Et moi, je me souviens... J'étais extrêmement pudique d'un point de vue sentimental combien de fois pour déclarer, incapable de dire à une fille que je l'aimais, je lui envoyais par exemple un morceau de musique en espérant qu'elle comprenne tout ce que la musique racontait.
Thank you.
Michel Legrand et Stéphane Grappelli qui interprètent Le Temps des Cerises, qui est une chanson que vous avez suggérée lors de la préparation de l'émission, Marc Lévy, mais qui est également évoquée dans Ghost in Love. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on sent les résonances entre ces personnages de ce roman et votre propre vie. Puisque, en premier lieu, je me suis dit, bon, bah, c'est une chanson qu'on a dû chanter chez vous, enfant, avec l'histoire de votre papa, ça résonnait aussi un peu, hein. Raymond Lévy, donc votre père.
Oui, oui. Non, dans le roman, il y a une conversation à un moment donné entre Thomas et son père. Et le fantôme de son père lui fait un reproche, parce que Thomas, bien qu'adulte, fait un reproche d'adolescent à son père en reprochant à son père de pas s'être assez intéressé à lui, d'être incapable de citer des films ou des livres ou des musiques correspondant à ses goûts. Et son père lui renvoie la balle en lui disant « Mais toi, qu'est-ce que tu connais finalement de mes goûts, moi qui ai été ton père toute ta vie ? Est-ce que tu connais ma musique de film, ma musique préférée ? Est-ce que tu connais mon film préféré, le livre ou le poème qui m'a le plus ?» Et à la grande surprise de l'un et de l'autre, l'un et l'autre vont être capables de répondre à la question, alors que finalement, ce sont des sujets de partage merveilleux sur lesquels ils n'ont jamais réussi à échanger tant que le père de Thomas était en vie. Mmh. Et donc, Thomas répond à son père, pour commencer, le temps des cerises que tu chantais tout le temps sous la douche, et d'ailleurs que tu chantais tout le temps tout court. Et moi, c'est vrai que mon père chantait tout le temps des cerises, la butte rouge aussi, qui chantait énormément. Et donc voilà, c'est vrai que quand j'entends le temps, il y a une mémoire, il y a une mémoire olfactive, mais la mémoire des musiques est une mémoire quasi inaltérable. C'est incroyable. C'est passionnant le rapport qu'on a avec ce qui vient stimuler la mémoire. Finalement, on a tous des disques durs qui sont ultra pleins et parfois une grande difficulté à les se souvenir de. Et une odeur et une musique ouvre des portes sur des moments de vie qu'on croyait complètement enterrés, enfouis et oubliés. Et c'est vrai que cette musique-là, alors cette version-là, non. Parce que lui, c'était vraiment la version de mon temps qui était... Parce qu'il y a, dans la version de mon temps, un petit peu comme d'ailleurs dans la façon dont Sinatra chante New York, New York, il y a une légèreté, il y a un côté aérien et une légèreté sur la gravité des paroles.
Ouais, c'est ça, c'est la contradiction presque inhérente et qui est aussi cette sensation quand on vous lit, Marc Lévy, cette sensation d'être capable de parler de choses graves, parce que là il s'agit aussi du retour d'un défunt dans la vie de Thomas, avec beaucoup de légèreté, d'humour et de presque de gaieté.
Oui, oui, même de gaieté, oui. Mais je crois que c'est un certain art de vivre, de parler des choses profondes sans leur donner nécessairement une gravité et sans en faire des drames, parce que la vie n'est pas qu'un drame.
Thank you.
C'est Philippe Cassard qui interprète ce Clair de lune de Claude Debussy et qui nous renvoie à un moment de votre vie, Marc Lévy, que j'aimerais bien que vous nous évoquiez.
Eh bien, en fait, j'avais une grand-mère formidable qui avait été une merveilleuse pianiste. Et ma grand-mère avait deux filles, ma mère et la sœur cadette de maman. Et la sœur cadette de maman est morte à 17 ans d'une polio. Et pendant le temps où ma grand-mère essayait d'aider sa fille à lutter contre la paralysie qu'il a gagnée, le piano a été l'instrument de la thérapeutie. De la thérapie. Et ce que je ne savais pas, bien entendu, c'était que le clair de lune était le morceau avec lequel mère et fille jouaient jusqu'à ce que ma tante, que j'ai pas connue, disparaisse. Et le jour où ma grand-mère a perdu sa fille, ma grand-mère a refermé son piano et elle n'y a plus jamais joué de sa vie. Et donc, quand je suis né, elle ne jouait plus déjà depuis des années. Et je ne savais pas qu'elle jouait. Et j'ai...
Je voulais dire qu'enfant, quand vous rêviez de piano et que de musique, vous ne saviez pas que votre grand-mère avait été pianiste.
Non, je savais pas. Et elle habitait à la maison. Et j'ai comme ça, je crois, 14 ans de mémoire, et je suis dans ma chambre sur mon piano droit et je répète le clair de lune de Debussy. Bon, et donc je suis en train de le jouer et à un moment, la porte de ma chambre s'ouvre, ma grand-mère rentre, elle s'assied à côté de moi sur le tabouret, elle pousse mes mains. Elle joue le clair de lune de Debussy, comme elle l'aurait joué dans une salle de concert. Elle me regarde, elle me dit, c'est comme ça qu'on doit le jouer. Elle se lève et elle s'en va. C'était incroyable. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai entendu ma grand-mère jouer du piano. Mais c'était, comment vous dire, et c'est la seule fois de sa vie où elle a rejoué. Des années ont passé, bien entendu, et je me suis, comment vous dire, j'ai pris conscience, et je me suis dit, mais comment dans un livre, dans un film, on peut raconter l'intensité du moment qu'elle a dû vivre, où de sa chambre, elle entend tout à coup le morceau qu'elle joue avec sa fille, et elle trouve dans sa mémoire la force d'arriver au piano avec cette dignité, cette force, cette façon dont elle s'est assise, où dans ses mains qui chassaient les miennes, il y avait un mélange d'amour et de colère. Vous voyez, et hop, une seule prise, et c'est comme ça qu'il faut le jouer, et hop, elle est repartie.
Elle n'a rien dit, elle est repartie, et vous avez découvert cette histoire à quel moment ?
C'est-à-dire que je suis resté quand même, c'était, vous imaginez, c'est comment vous dire, votre mère qui rentre tout à coup dans votre chambre et qui fait un triple salto arrière, et vous vous dites pardon, et évidemment, après, je suis allé demander à ma propre mère, en disant, mais qu'est-ce que, et là, maman m'a raconté l'histoire, en me disant, après, n'en parle plus.
Thank you.
L'adagio du concerto pour piano numéro 23 en la majeure de Mozart, interprété par Mitsuko Uchida avec l'orchestre de chambre anglais sous la direction de Jeffrey Tate, et qui est un concerto, dès que les premières notes ont été jouées, Marc Lévy, vous avez, on sent que vous avez été dans un, presque un recueillement.
Non, c'est un concerto magnifique, et qui raconte une histoire magnifique, et qui vous emmène très très loin.
Que vous évoquez d'ailleurs dans votre roman Ghost in Love.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire que le grand avantage quand on aime la musique et que le personnage principal de votre roman est pianiste concertiste, c'est qu'évidemment, ça permet de créer entre guillemets une BO qui est tout à vos goûts et d'ailleurs que j'ai écouté tout au fil de l'écriture. Mais ce qui m'amusait aussi beaucoup dans le roman, c'était de mettre en scène ce personnage un peu à la Walter Mitty, qui vit sa vie entièrement par le prisme de la musique. C'est-à-dire que même ses émois sexuels et amoureux, il les revit. Bon, il a eu une aventure torride avec une femme et qu'il faisait l'amour avec elle.
Violoniste.
Ouais, il faisait l'amour sur Brahms, et à chaque fois qu'il est amené à jouer Brahms, le chef d'orchestre est obligé de le réfréner en lui disant « Enfin, calmez-vous, c'est un peu intense non, comme façon de jouer. » Et toute sa mémoire, toute sa vie, toutes ses émotions se transmettent et se racontent par les partitions et par les airs de musique qu'il joue. Et je trouve que c'est une façon de s'exprimer enfin moi qui me bat, que j'aime bien, ça crée un décalage et une forme d'humour aussi dans le rapport qu'il entretient avec les autres.
Et ce concerto alors de Mozart, ce numéro 23, il correspond
dans
votre
sa vie ou dans la mienne?
La vôtre. Là on s'intéresse à la vôtre.
Et moi j'avais, il y a très longtemps, je crois que 2002 ou 2003, je m'étais entiché de réaliser un court-métrage pour lutter contre les violences faites aux femmes. Voilà, et qui avait servi à la campagne internationale de Amnesty contre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc j'avais tourné un court-métrage avec Rachida Brakni et j'avais au départ, quand j'avais écrit le scénario, je voulais absolument une musique de Tracy Chapman, et puis je lui ai écrit, et puis elle a jamais voulu répondre. Et puis en 3 jours ou 4 jours avant de filmer, j'étais très embêté parce que je me voyais pas filmer des images sans entendre une musique dans ma tête. Je voulais absolument que ce que je filme colle à des notes de musique, puisqu'en plus le court-métrage, en fait, tu racontes l'histoire d'une femme emprisonnée qui résiste et qui refuse qu'on lui enlève sa dignité et qui va être fusillée dans un bois, et ça hantise. Elle écrit une lettre, en fait, voilà, et dans cette lettre elle demande à ceux qui sont libres de se souvenir d'elle, parce que sa peur, ça n'est pas de mourir, sa peur c'est de disparaître et de ne pas avoir existé parce qu'elle aura disparu, et donc elle veut juste qu'on se souvienne qu'elle a existé. C'est bon, c'était la lettre, et il fallait absolument que j'ai une musique pour ça. Et puis je réécoute, comme je l'écoute souvent, le concerto, ce concerto numéro 23, et arrive le deuxième mouvement, et là je me dis mais c'est exactement, voilà. Et c'est comme, et donc j'ai tourné le court métrage avec un casque sur les oreilles, et en donnant mes instructions aux acteurs en criant un peu fort, parce que j'écoutais le 23, parce que je filmais sur le 23. Voilà,
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et alors, dans ce roman Ghost in Love, paru chez Robert Laffont, c'est le deuxième concerto de Rachmaninov qui est extrêmement présent.
Ouais.
On va pouvoir en parler, mais vous avez sans doute choisi ce concerto pas par hasard, en quelques mots.
Non, parce que alors il y a un petit clin d'œil pour les. D'abord, je l'ai choisi pour l'émotion qu'il procure et pour tout ce qu'il suscite en moi. Et là, on n'aurait pas le temps d'en parler. Je l'ai choisi parce que je pense que c'est aussi d'un point de vue de l'interprétation. Je parle bien de l'interprétation, pas de la vélocité ou de la virtuosité. Je pense que c'est un morceau d'une complicité extraordinaire émotionnelle. Et puis parce que c'est un concerto qui n'a pas été composé par hasard. Rachmaninov sort d'une grande dépression. Il a été traité par hypnose, ce qui à l'époque est extrêmement avant-gardiste. Et ce morceau raconte un mélange. Pour moi, ce morceau contient trois partitions humaines que je trouve très bouleversantes. Celle de la résurgence et de la renaissance d'un être humain à l'intérieur de lui-même. En même temps, le rapport qu'il entretient avec son identité, c'est-à-dire que c'est un morceau où on entend le vent qui souffle sur les steppes russes, c'est-à-dire ça n'est pas que Rachmaninov, c'est toute la Russie qui est là. Et en même temps, une chose très subtile pour ceux qui aiment ce morceau, c'est que c'est pour moi le plus beau morceau de musique classique qui parle de l'éloignement, de l'expatriation, de l'immigration ou de l'émigration et de la distance.
Thank you. Thank you.
Clyburn interprète ce Moderato Allegro du concerto numéro 2 en ut mineur, opus 18 de Rachmaninoff, avec l'Orchestre Symphonique de Chicago, sous la direction de Fritz Reiner. Marc Lévy, pourquoi avoir choisi comme personnage principal ce concertiste qui joue ce concerto de Rachmaninoff à travers le monde? Donc l'œuvre, on a saisi pourquoi, mais pourquoi un concertiste? Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous?
Comment vous dire, Thomas et moi, on a la même, on a le même problème, et finalement, on a trouvé la même solution. C'est que quand vous êtes confronté à ces jeunes, à la pudeur, et donc à cette, la pudeur, c'est un truc assez étrange parce que vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de les partager, mais il y a un truc qui vous en empêche. Il y a une forme de pudeur, vous voyez, de feutre, de voile qui vous repousse toujours en arrière. Et qui fait que vous pouvez avoir l'histoire la plus drôle du monde à raconter, vous n'allez pas la, vous n'oserez jamais la raconter à table, alors il y a un de vos potes qui va la raconter à votre place, qui fait que, vous voyez, accoudé à un bar, la fille dont, pour laquelle vous venez d'avoir un coup de foudre, en plus vous sourit, mais il vous faut 6 mois pour traverser le bar et aller jusqu'à elle, donc entre temps elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc la pudeur, c'est en même temps, comme vous dites, un don, parce que c'est ce qui vous permet de prendre énormément de recul et de vivre plein de choses intérieurement, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui vous coupe du reste du monde. Et à un moment, on est des êtres de chair et d'eau et on a tous besoin de s'exprimer. L'écriture, c'est une façon d'écrire sur le papier tous les mots qu'on n'arrive pas à dire à voix haute. Et la musique. La musique, évidemment, avec une chose quand même extraordinaire qu'on ne rappelle jamais assez, c'est que la musique, c'est le langage universel. C'est-à-dire que c'est fascinant d'imaginer que l'humanité tout entière écrit la musique de la même façon. C'est l'espéranto le plus réussi au monde.
On n'a pas besoin de traduire la musique.
Vous donnez un chinois et un espagnol peuvent jouer le même morceau de musique et travailler ensemble sans avoir le moindre problème de compréhension avec des partitions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi qui étais prisonnier des mots quand j'étais gosse, vous imaginez, quand j'ai compris que des gens de tout horizon, de tout monde, de toute culture pouvaient se réunir autour de la musique, je me suis dit, mais c'est, enfin, pour moi, c'était fascinant. C'était la tour de Babel était là, elle existait vraiment. Là, on ne la voyait pas, mais elle était devant nos yeux.
Mais Marc Lévy, vous dites prisonnier des mots, justement. Comment il y a eu toute une période de votre vie où finalement la musique semble avoir disparu de votre vie et l'écriture est venue bien après. Comment vous expliquez ce vide entre la musique et les mots, vous qui étiez prisonnier des mots?
Je pense pas que c'est un vide, je pense que c'est une continuité, c'est-à-dire que la vie finalement c'est un chemin, on avance sur un chemin et chaque moment de vie a sa raison d'être et chaque moment de vie vous apporte, vous construit et ce qui est le plus important je trouve quand on se retourne c'est de regarder, c'est le voyage, c'est la beauté du voyage. Donc le passage de la musique aux mots, c'est le passage d'une langue à une autre. D'ailleurs l'un n'interdit pas l'autre. La réception est parfois aussi importante, enfin la perception est parfois aussi importante que l'expression. Donc vous voyez, moi aujourd'hui je ne joue plus. Mais la musique, elle reste une partie intégrante de ma vie. Et elle m'apporte, toujours autant d'émotions. Elle me relie toujours autant aux autres, au point d'ailleurs qu'elle est omniprésente dans l'écriture d'un roman et qu'à un moment donné, dans un roman, j'arrive à marier les deux.
Mais il a fallu arrêter de pratiquer la musique, de la jouer pour que les mots prennent leur place dans votre vie. Marc Lévy, c'était ça l'objet de la question.
Non, je crois que j'ai arrêté. J'ai arrêté parce qu'en fait, ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais je nourris ce petit rêve secret, je peux le dire, parce qu'il n'y a aucune chance qu'il entende l'émission, il a 9 ans. Mais j'ai d'autant plus arrêté quand mon fils a commencé à s'y mettre. Pour que ça soit moi qui l'écoute et pas lui qui m'écoute.
Hélène Grimaud interprète le nocturne numéro 19 en mi mineur, opus posthume 72 numéro 1 de Frédéric Chopin. Hélène Grimaud, que j'ai choisi de vous faire entendre ce matin, Marc Lévy, parce que je crois que c'est une interprète que vous aimez beaucoup.
Oui, d'ailleurs, je la cite dans le roman. Parce qu'à un moment du roman, Thomas a un rêve, hein, il a un rêve de gosse, lui aussi, qui est de se produire un jour au Symphony Hall de San Francisco, qui est une salle assez extraordinaire, parce qu'en plus c'est une salle gigantesque, mais c'est une salle dans laquelle il y a tout un travail qui peut être fait sur l'acoustique et sur la réverbération. C'est une salle qui a des équipements où les murs et les voiles qui tombent du plafond peuvent bouger, donc on peut régler l'acoustique de façon assez incroyable. Bon, et c'est vrai qu'il y a une acoustique dans cette salle qui est dingue. Bref, Thomas rêve d'y jouer. Et il a toujours eu la peur. Enfin, il l'a pas fait. Voilà. Et puis le fantôme de son père va l'amener jusqu'à cette salle. Et le convaincre de rentrer et d'aller se présenter au régisseur de la salle et au propriétaire de la salle. Et donc sur l'affiche, il lit les noms des grands interprètes, des grands musiciens qui vont s'y produire, et parmi eux, Hélène Grimaud. Alors j'étais allé vérifier, et elle a vraiment joué là-bas, donc je n'inventais pas trop. Oui, c'est une interprète incroyable, et puis j'avais été très très touché par ses livres, et en plus je l'ai croisée une fois dans le bureau de mon éditrice, parce qu'elle avait publié un livre chez Robert Laffont. Et voilà, quand je l'ai rencontrée, en plus elle est d'une beauté à couper le souffle, et on nous a présenté, on s'est dit bonjour, elle est très timide, je la regarde et j'avais envie de lui dire à la Pierre Dac, mais vous trouvez pas que vous, un petit peu trop quand même tout ça? C'est-à-dire l'intelligence, la culture, les loups, le piano, et en plus... c'est une interprète magnifique, c'est une femme très intelligente, une intelligence de l'esprit, enfin vraiment ce qu'on appelle l'intelligence dans toute la noblesse du terme, et pas, vous voyez, dans sa sophistication parfois prétentieuse, vraiment dans toute la noblesse du terme, et c'est une interprète magnifique.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et Marc Lévy, la solitude du concertiste est largement évoquée dans ce roman. J'avais envie de la mettre en parallèle avec la solitude de l'écrivain, qui est à peu près opposée, non? Et pourtant, il s'agit de solitude dans les deux cas.
Elles sont à la fois similaires et opposées. Similaires dans la mesure où quand on est seul face à sa partition, et surtout quand on est seul, quand on part avec sa musique ou qu'on aille, je pense que le concertiste oublie les 300, 400 ou 1000 spectateurs qui sont dans la salle. L'écrivain est un petit peu plus seul parce que j'allais vous dire, quand j'entre dans mon bureau, personne n'applaudit, vous voyez, et quand je sors de mon bureau, personne n'applaudit non plus, et pendant que je travaille, je n'ai pas un chef d'orchestre qui vient me rassurer. Alors si, j'ai un rapport avec mon éditeur de temps en temps quand je lui envoie un paquet de 50 pages, mais l'écrivain est vraiment seul face à sa copie. Le musicien est plus entouré. Mais je crois qu'on a musicien et écrivain, peintre, sculpteur, et etc., etc., ont tous cette solitude de vivre une partie de leur vie dans un monde légèrement décalé et parallèle. Celui du romancier qui vit dans son monde avec ses personnages, et celui du musicien qui vit dans son monde avec sa musique et avec la projection de l'interprétation qu'il aura à accomplir devant un public. Et d'ailleurs, cette fameuse fosse d'orchestre dont on parle, quand vous regardez un soliste, que ça soit un pianiste ou un violoniste, que vous le regardez sur une scène d'orchestre, regardez-le bien. Il y a quelque chose dans la lumière qui le rend assez particulier. C'est qu'il y a le chef d'orchestre qui est là, qui a l'air à l'abri de tout. Il y a l'orchestre qui forme, vous voyez, l'humanité presque tout entière. Et puis il y a le soliste qui est tout seul dans la lumière. Et il y a une aura autour de lui, et on peut presque la voir, cette solitude.
Le chant du rossignol de Stravinsky avec l'orchestre philharmonique de New York sous la direction de Pierre Boulez. C'est une œuvre, Marc Lévy, que vous avez appris à apprécier. Comment avez-vous procédé? C'est à force de l'écouter, c'est comment ça se passe pour vous?
Oui, c'est à force de l'écouter, et puis c'est surtout en essayant de la comprendre. Et il est évident que quand vous écoutez le chant du rossignol à 12-13 ans, l'histoire est pas du tout évidente. Puisque par définition, la mélodie est beaucoup moins accessible. Et puis, il y a presque des disharmonies dans ce morceau. Et en même temps, il y a une rythmique qui est très étrange, qui est parfois dérangeante. Et il y a un côté anxiogène dans la musique qui colle pas du tout avec le titre. Bref. Et il suffit que un conteur passe et vous dise « Ferme les yeux, ne sois plus là où tu es. » Rouvre les yeux et maintenant tu es au milieu de la forêt. Et écoute. Écoute tout ce qu'il y a autour de toi. Essaye d'imaginer les arbres, les oiseaux, le vent, la peur. Essaye d'écouter tout ce que tu ressentirais si en rouvrant les yeux tu étais au milieu de la forêt. C'est une histoire parmi d'autres. Mais à partir du moment où vous racontez cette histoire et vous écoutez cette musique, alors immédiatement, vous intéressez et puis à force de vous intéresser et d'écouter, vous vous mettez à aimer. C'est une musique que je trouve très intéressante parce qu'elle est très à l'image. Je vais vous faire un parallèle, vous allez vous dire que je suis pas à jeun, mais je le suis, je vous le jure. C'est une musique...
Tôt le matin vaut mieux.
Oui, c'est une musique, je trouve, qui est exactement... C'est un fil conducteur pour moi de la façon dont on communique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une musique qui, à prime abord, quand vous écoutez cette musique, c'est la musique de l'étranger, où vous vous dites « je comprends pas, ça m'agace, ça m'énerve ». Et puis c'est une musique, si vous faites un pas vers elle, au lieu de vous en éloigner, de la juger, de la détester, vous allez vous mettre à l'aimer profondément, parce que vous allez finir par la comprendre. Et c'est tout ce qu'on n'arrive plus à faire en ce moment à cause de ces saloperies de réseaux sociaux. Vous voyez, c'est qu'on juge avant d'écouter ou de comprendre.
Est-ce que, je me demandais en l'écoutant, est-ce que on peut écouter une musique, en vous écoutant parler, je me suis dit, est-ce que ça peut éveiller une nouvelle idée de roman, une nouvelle idée d'histoire à raconter, la musique? Est-ce que vous écoutez de la musique pour vous inspirer?
Ah, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Le processus qui est le plus drôle, enfin le plus magique, le plus drôle, le plus joyeux, mais en même temps le plus complexe, c'est que pour raconter une histoire, c'est le grand bleu, c'est-à-dire que vous êtes sur le ponton et vous vivez au milieu des, enfin vous êtes au milieu des vivants, et puis à un moment donné, hop, vous vous accrochez à la buse et vous descendez au fond. Une fois que vous êtes au fond, tip tap toe, vous voyez les sirènes, les étoiles, le sable, enfin vous êtes dans votre monde imaginaire. Vous avez, c'est d'ailleurs ce que dit à un moment Thomas dans le roman, et quand il dit un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. Donc dès que vous êtes au fond de l'eau, boum, vous êtes de nouveau cet enfant. Et d'ailleurs vous n'êtes pas encore endetté puisque vous êtes encore un enfant. Le plus complexe, c'est de descendre. Une fois que vous êtes au fond, tout va bien. Et ce qui est d'ailleurs très difficile, on en parlait dans le rapport à la solitude, c'est ensuite de remonter. La musique, c'est une buse. La buse au sens de cet appareillage, pour les non-initiés, les plongeurs en apnée, pour descendre au fond de l'eau, il y a un câble, et sur ce câble glisse ce qu'on appelle une buse, c'est-à-dire un énorme poids auquel ils s'accrochent et qui les entraîne très rapidement vers le fond pour ne pas perdre de temps sur leur temps d'apnée à descendre au fond. Mmh. Et ensuite, ils doivent remonter par leurs propres moyens. Donc c'est pour ça que j'appelle ça une buse, c'est son nom. Et la musique, c'est une buse extraordinaire pour partir du monde des réels et aller dans le monde imaginaire, quel qu'il soit. Vous voyez le danger de l'imagination, on a parlé Hélène Grimaud, les loups, du coup je suis parti sur les buses et je me suis ridiculisé deux fois. L'appareillage qui permet de descendre, c'est pas du tout une buse, c'est une gueuse. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit buse deux fois comme ça, mais voilà. Donc
pour faire le buse.
C'est ça, c'était pour faire le buse, exactement. Donc c'est une erreur de vocabulaire. Bien sûr, c'est la gueuse, pas la buse.
Je crois que je vais vous garder avec nous jusqu'à pour la prochaine saison, Marc Lévy, puisque vous parlez très bien de la musique. On va devoir se quitter. On va se quitter avec un extrait des Quatre Saisons de Vivaldi. Je trouvais que c'était bien pour terminer,
le morceau
parce que
coupable.
Je crois
mais
que
il c'est... est arrivé un truc tragique à Vivaldi, c'est que c'est un compositeur magnifique et des gens de très très mauvais goût ont pris sa musique et l'ont mise dans les ascenseurs. Et vous voyez, et du coup, il y a ce côté, cette espèce de fausse prétention culturelle, vous savez, du plaisir coupable. Et mais non, par exemple, si Menon était victime, j'adore, aujourd'hui il est dans la Pléiade, alors qu'à l'époque c'était la lecture coupable. Alors Vivaldi, ça ressort du même phénomène, et pourtant, on peut dire ce qu'on veut, mais écoutez.
Merci beaucoup Marc Lévy d'être venu
merci à vous.
Partager cette heure et demie sur France Musique. Je rappelle que Ghost in Love a paru chez Robert Laffont et que c'est un délice pour les amateurs de musique. Merci Marc Lévy.
Thank you.
Andrea Marcon, Giuliano Carmignola avec l'orchestre baroque de Venise pour terminer cette émission en compagnie de Marc Lévy qui a donc publié Ghost in Love chez Robert Laffont et qui était l'invité de Musique et moi ce matin. Un grand merci à Pascal Bresse, Cédric Lalanne, Raymond Albouy qui ont permis à cette émission de s'enregistrer à Cannes, Catherine Prin-Legal à la réalisation et Marie Ferdinand, attachée de production. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute de France Musique. On se retrouve évidemment à la rentrée à 11h sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.